Annie, deuxième partie, chapitre 14. Quand Barinck revint de reconduire Sixte et le notaire, il trouva sa femme qui l'attendait, anxieuse. « Que voulaient Rébénac et le capitaine ? » demanda-t-elle avec une vivacité fébrile. Bien qu'il s'attendît à être interrogé et se fût préparé, il ne répondit pas tout de suite. « C'est pour un nouveau testament ? » dit-elle. « Oh, pas du tout. »« Eh bien, alors ?»« Tu vas être surprise et, je le pense, satisfaite aussi. » Surprise, je le suis. Satisfaite de quoi ? À ce moment, Annie vint les rejoindre, pressentant que son père devait avoir besoin d'elle. « Voilà justement Annie, » dit-il en respirant, « et je suis aise qu'elle arrive, car ce que j'ai à vous apprendre la touche autant que nous, et même plus que nous encore, si vive que soit notre tendresse pour elle. » Voyant son père entasser les paroles sans oser se décider, elle se décida à brusquer la situation. « Monsieur Sixte est venu te demander ma main ? » dit-elle. « Annie ! » s'écria sa mère suffoquée. « Précisément. »«
Est-ce possible ? »
s'écria Madame Barinck. Après avoir engagé l'action avec cette vigueur, Annie voulut se jeter elle-même dans la mêlée. « S'il ne m'avait pas cru engagé avec M. d'Arjusanx, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. »«
Il te l'a dit ?»
demanda Madame Barinck, frémissante. « Il ne le pouvait pas, puisqu'il est l'ami de M. d'Arjusanx. »«
Alors,
est-il besoin de paroles pour s'entendre ?»«
Vous vous êtes entendu ?»«
Tu le vois, maman. » À ces mots, Madame Barinck se laissa tomber sur un fauteuil.
« Malheureux que nous sommes !»
murmura-t-elle. Annie vint à elle, et, lui posant la main sur le bras, tendrement. « Pourquoi malheureux ? » dit-elle d'une voix douce et caressante. « Qui est malheureux ? Est-ce moi ? Je n'ai jamais éprouvé joie plus profonde, bonheur plus complet ? Est-ce mon père ? Je ne vois pas que ses yeux exprime le mécontentement ou le chagrin ? Est-ce toi ?
Oui, moi, qui me demande si je rêve ou si je suis folle.
Et que peux-tu désirer chez un gendre que tu ne trouves chez Monsieur Sixte ? Beau garçon, ne l'est-il pas ? Et avec cela, distingué, l'air bon, d'une bonté sans faiblesse ? Intelligent, ne l'est-il pas aussi ? Non seulement pour tout ce qui touche à son métier, sa carrière le prouve, mais d'une intelligence étendue, qui ne se spécialise pas sur un seul point. Ce n'est pas un officier qui n'a que du vernis, comme on dit dans le monde militaire. C'est un esprit qui comprend, qui sait, qui sent. Et sa naissance ? Est-ce que tu t'imaginais qu'un prince me demanderait en mariage ?
Je ne parle pas des titres, mais de la famille.
Barinck, qui jusque-là avait laissé sa fille mener l'entretien, assuré à l'avance qu'elle le ferait avec plus d'autorité que lui, voulut l'appuyer.
« Et si le capitaine est le fils de Gaston, dit-il, cette paternité n'est-elle pas la meilleure pour nous ? Cette paternité ne peut faire de lui qu'un bâtard et ne lui donne pas de famille. »
« Eh bien, tant mieux, répliqua Annie vivement. S'il n'a pas de famille, il n'en sera que mieux à nous. Je n'aurai pas à lutter contre un beau père, une belle mère, des parents plus ou moins hostiles. Nous serons tout pour lui. Tu seras sa mère. N'est-ce rien, cela ? Longuement, Madame Barinck, sans répondre, regarda sa fille d'un air dans lequel il y avait autant d'indignation que de chagrin. Puis, se tournant vers son mari,
« Qu'as-tu dit ? »
demanda-t-elle.
Que je devais vous soumettre cette proposition à l'une et à l'autre. Dieu soit loué, nous avons du temps à nous. »
Mais elle se trompait. Annie ne lui laissa pas ce temps, sur lequel elle comptait pour organiser la défense et trouver, elle qui n'était pas femme de premier jet, des arguments de refus auxquels il n'y aurait rien à répondre. Chose extraordinaire, ce ne fut pas la fille qui resta court devant la mère, soumise par la force de la persuasion, ce fut la mère qui se laissa convaincre par la fille et eut la stupéfaction de voir qu'elle avait dit oui quand elle voulait dire non. Cette stupéfaction ne fut pas moins vive chez elle lorsque, le mariage ayant été décidé et le jour fixé, il fut question de la rédaction du contrat. Son mari ne voulait-il pas faire plus pour Sixte qu'il n'avait promis au baron ?
« Veux-tu donc nous dépouiller ? » s'écria-t-elle. « Pourquoi pas ?
Au profit d'un homme qui n'a rien ? C'est parce qu'il n'a rien que nous devons compenser ce qui lui manque.
Oh, c'est de la folie !
Ce que nous retirons, c'est à notre fille que nous le donnons. Non, ce n'est pas à notre fille, c'est à notre gendre. Et il semble que ce soit à lui que tu penses, plus qu'à elle. Que t'a-t-il fait ? Qu'est-il pour toi ? C'est à n'y rien comprendre. » Et comme il était disposé à faire deux parts égales de sa fortune, l'une pour Sixte, l'autre pour lui-même, ce qui, selon sa conscience, n'était que juste, il dut, devant la résistance de sa femme, se modérer dans ses élans de générosité qui n'étaient en réalité qu'une réparation. « Faisons un contrat convenable, » dit Madame Barinck, « et plus tard, quand nous verrons ce qu'est ce mari que vous m'imposez, nous lui donnerons ce qu'il méritera. Pourquoi remettre notre fortune entre ses mains ? Beaucoup d'officiers sont dépensiers. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à le mettre à même de se ruiner si l'envie lui en prenait. En don, tout ce que tu voudras et ce qui lui sera nécessaire ou agréable. En dû, pas plus que ce qui est honorable. » Comme en réalité, il importait peu que la restitution qu'il cherchait avant tout se fît d'une façon ou d'une autre, il n'insista pas davantage. Sixte aurait sa part de la fortune de Gaston, c'était l'essentiel. Assurément, il n'imaginait pas que Sixte fût jamais amené à se ruiner. Mais enfin, le langage de sa femme était trop prudent et trop sensé pour qu'il ne l'acceptât pas. Une autre question qu'ils agitèrent non moins vivement fut celle de la cérémonie même du mariage. À raison de la mort encore si récente de son frère, Barinck n'aurait voulu aucune cérémonie. Une simple bénédiction nuptiale, suivie d'un déjeuner pour la famille et les témoins, cela lui suffisait. Mais pour Madame Barinck, les choses ne pouvaient pas se passer ainsi. Sa fille eût épousé le baron, que cette simplicité eût été une marque de goût. Mais avec le capitaine Sixte, avec M. Valentin Sixte, on aurait l'air de vouloir se cacher, et cela ne pouvait pas lui convenir. Au contraire, il fallait faire les choses de façon à imposer silence aux mauvaises langues et profiter de ce mariage pour prendre position dans le pays. Les 6 mois de deuil seraient écoulés, on pouvait donc ouvrir le château à des invités. 20 ans auparavant, elle eût reçu ses invités en leur donnant un déjeuner et un bal champêtre. Mais la mode de ces réjouissances bourgeoises étant passée, on leur offrirait un lunch assis, servi sur de petites tables installées sous une vaste tente élevée dans le jardin. Cela permettrait de réunir un plus grand nombre de personnes, les parents, les alliés de la famille de Saint-Christaud et aussi le monde militaire officiel de Bayonne, les camarades de Sixte. Il ne fallut pas moins de 6 semaines pour les préparatifs. Le trousseau, les toilettes commandées à Paris, qu'une première vint essayer à Ourthaud, et aussi l'installation au château d'un appartement pour le jeune ménage, en même temps que celle d'une maison à Bayonne. Cette installation au château fut un nouveau sujet de discussion entre le mari et la femme, car, fidèle à son idée de restitution, Barinck voulait abandonner son propre appartement, c'est-à-dire celui de Gaston, à Sixte et à Annie.
Mais Madame Barinck n'accepta pas cet arrangement, ou plutôt ce dérangement. « Ne sommes-nous plus rien chez nous ? » dit-elle indignée. « À notre âge !» Cette fois, ce ne fut pas du côté de son père que la fille se rangea, et il dut céder à leur volonté. Ce serait au second étage qu'il voulait prendre pour lui, qu'on leur aménagerait cet appartement. Et, ne pouvant pas leur donner les pièces qu'ils désiraient, il se rattrapa sur le mobilier en choisissant dans le château pour le placer chez eux tout ce qui avait une valeur artistique quelconque ou l'intérêt d'un souvenir. Dans le cabinet de travail de Sixte, le portrait et le bureau de Gaston. Dans celui d'Annie, un magnifique tapis de fabrication arabe, haute laine, à dessins riches de couleurs, de ceux que les antiquaires appellent « tapis de mascara », et un cabinet à deux corps à quatre vantaux en bois de noyer sculpté, datant de Henri II, dans lequel il avait rangé une collection de livres de choix aux plus jolies reliures. Enfin, dans la chambre à coucher, des tentures en soie brodée, appliquées et rehaussées d'or et d'argent, représentant Henri IV en Apollon, et un grand lit à baldaquin du XVIIe siècle avec pente, courtine et plafond en velours ciselé de Gênes. Comme Annie et Sixte se défendaient qu'il dépouillât ainsi le château tout entier pour orner leur appartement de ce qui, pendant une longue suite d'années, avait été accumulé par les héritages de famille, il leur dut avouer dans quel but il se donnait tant de peine. « Je veux vous organiser un nid qui soit un reliquaire pour vos souvenirs, digne de vous, de votre jeunesse, de votre tendresse. Comme les fonctions de Sixte et surtout les exigences du général ne vous permettent pas un voyage de noces, ce dont, à vrai dire, je ne suis pas fâché, car ces voyages, sous prétexte d'éloignement et d'isolement, ne sont en réalité que des occasions de promiscuité gênante ou blessante, dans lesquelles on éparpille ses souvenirs sans jamais pouvoir mettre la main dessus plus tard, quand il serait bon de se retremper dedans, j'estime que le jour de votre mariage doit se passer tout entier ici et s'achever dans cet appartement, que je vous arrange à cette intention. Je sais bien que ce jour-là les parents sont encombrants. Aussi, mon intention est telle que ma bonne femme et moi, nous nous en allions à Biarritz, où vous viendrez nous rejoindre le lendemain ou le surlendemain, enfin, quand il vous plaira. Par ce moyen, vous aurez la pleine liberté du tête-à-tête dans cette maison, qui a été celle de votre grand-père et de vos aïeux. La chaîne ne sera pas interrompue, et plus tard, vos enfants feront comme vous, puisque le château ne sortira jamais de la famille. Pendant ces 6 semaines, Sixte vint tous les jours au château, faisant à cheval les 30 kilomètres qui séparent Bayonne de Hourtaux, les heures des trains ne lui permettant pas d'user du chemin de fer. À 4h05, son ordonnance lui amenait son cheval, à 4h, il l'enfourchait, et entre 6h15 et 6h20, il arrivait devant la grille du château où il trouvait Annie qui l'attendait. Le concierge prenait le cheval pour le conduire à l'écurie, où il se reposait jusqu'au lendemain, un autre devant servir pour le retour à Bayonne. Et par l'allée qui longe le gave, les deux fiancés, à pas lents, s'entretenant, se regardant, gagnaient la maison. Une humide fraîcheur se dégageait de l'eau bouillonnante. La lumière rasante du soleil abaissé glissait sous le couvert des saules cendrés et s'allongeait en nappe d'or dans le fouillis des hautes herbes. Et chaque soir, avec le jour décroissant, le spectacle changeait. Les feuilles prenaient insensiblement leur teinte rose ou jaune de l'automne, et sur les prairies fumaient des vapeurs blanches, d'où émergeaient les vaches. Mais ce n'était point des charmes du paysage qu'il s'inquiétait, des jeux de la lumière, de la musique des eaux, de la poésie du soir. Il s'entretenait simplement d'eux, à mi-voix,
de leur bonheur présent, de leur bonheur à venir. Si parfois Sixte venait à parler de ce qui se déroulait devant leurs yeux, c'était pour louer le talent avec lequel elle avait rendu dans ses études, poursuivi continuellement depuis 6 mois, les aspects vaporeux et tendres de ce gave et de ses rives. Et quand elle s'en défendait en disant qu'il était trop partial et qu'elle ne méritait pas ses éloges, il les précisait. S'il était vrai qu'elle fût encore une écolière en arrivant à Ourthaud, au moins en cela qu'elle subissait l'influence de ses maîtres, cette nature qu'elle traduisait si bien et interprétait si merveilleusement, parce qu'il existait sans doute un accord intime entre elle et ce pays, avait certainement fait d'elle une artiste. Rien de plus original, de plus personnel que ses études. Quand Madame Barinck avait entendu parler de ses visites quotidiennes, elle s'était montrée assez sceptique, disant que 30 kilomètres à l'aller et 30 kilomètres au retour ne tarderaient pas à faire plus de 60 kilomètres. Mais quand elle avait vu que ces 60 kilomètres, pas plus que la chaleur ou la pluie, n'avaient d'influence sur la régularité de Sixte, elle avait commencé à le regarder d'un œil un peu plus favorable et à reconnaître en lui des qualités qu'elle ne soupçonnait pas. Aussi, lorsqu'elle parlait de lui avec Annie, répétait-elle son mot favori, celui qui pour elle résumait tout. « Décidément, il est très convenable. » Et pour qu'il fût plus convenable encore, elle veillait elle-même à ce que Manuel ne négligeât point la chambre mise à la disposition de Sixte, et dans laquelle il faisait sa toilette en arrivant, et reprenait, au départ, son uniforme poussiéreux. Mais ce qui paraissait convenable à Ourthaud passait à Bayonne, dans le monde militaire, pour excessif. « A-t-on idée de ça? S'exposer à crever 2 jolies juments pour une jeune grue? Il se prépare d'agréables exercices. » Excessif pour les camarades, ces voyages étaient absolument ridicules pour les femmes et les filles des camarades. Vous savez que le capitaine Sixte fait tous les jours 60 kilomètres à cheval pour aller voir sa fiancée et revenir coucher à Bayonne? Le général le permet? Le pauvre général a si grand besoin de lui. Le fait est que, enfin, ces filles riches sont vraiment incroyables avec leurs exigences. Il me semble que, si celle-là avait eu un peu de tact, elle aurait eu l'intelligence de montrer que, quand on se paie un mari, il n'est pas nécessaire de crier sur les toits qu'on peut lui faire faire tout ce qu'on veut.
Vous irez au mariage?
Peut-être, pour voir. Ça promet d'être drôle. En attendant qu'on allât au mariage, on ne manquait pas de prendre, un peu avant 4 heures, la route de Saint-Palais pour but de promenade, de la porte de Mousserolles jusqu'à Saint-Pierre-d'Irube, à seule fin de voir passer le capitaine Sixte d'une allure régulière, si bien occupé à égaliser son poids sur sa jument et à la soulager par un parfait accord de la main et des jambes, que c'était à peine s'il répondait au salut qu'on lui adressait. L'imbécile ! Et les mères qui avaient reçu une solide éducation ne manquaient pas de dégager la leçon morale qu'enseignait ce spectacle, à savoir que l'argent est tout en ce monde. Enfin, le jour du mariage arriva, et, contrairement au pronostic de Madame Barinck, qui répétait du matin au soir que la malice des choses allait certainement leur jouer quelques mauvais tours, tout se trouva prêt. Les toilettes de la fille et de la mère, l'installation de la maison de Bayonne, l'aménagement de l'appartement d'Ourthaud, la tente, le linge. Le temps lui-même, qui au dire de Madame Barinck ne pouvait être qu'exécrable, se trouva radieux. Des voitures avaient été mises à la disposition des invités. Appuyaux, des landaus pour prendre à la descente du chemin de fer ceux qui viendraient par les lignes de Dax et d'Orthez. À Bayonne, des grands breaks conduit par des postillons à la veste galonnée d'argent et au chapeau pointu enguirlandé de rubans, pour amener en poste ceux qui trouveraient plus agréable ou plus économique de se servir de la voie de terre. La cérémonie était fixée à 11h30. À 11h25, le général, qui était un des témoins de Sixte, fit son entrée dans le salon en grande tenue, accompagné de sa femme ainsi que de ses 5 filles, et aussitôt Annie s'avança au-devant de lui.
« Tous mes compliments, mademoiselle, »
dit-il gracieusement en l'examinant sous le voile à la juive qui recouvrait jusqu'aux pieds sa robe de satin.
« Vous êtes la première mariée que je vois prête à l'heure. »
« C'est que j'ai sans doute la vocation militaire, » répondit-elle en souriant. Comme l'église et la mairie qui se font face sont à moins de 300 mètres du château, on devait, en cas de beau temps, ne pas monter en voiture pour ce court trajet. Quand le cortège arriva sur la place, il y trouva les 12 pompiers formant la haie, et la fanfare le salua d'un pas redoublé. Jamais, dans l'église trop petite, on avait vu tant d'uniformes, et les rayons du soleil, passant librement par les claires fenêtres sans vitraux, faisaient miroiter l'or des galons en nappes rutilantes qui éblouirent si bien le curé, d'un caractère simple et timide, qu'au lieu de prononcer la locution qu'il avait longuement travaillée, il se contenta de leur lire, en la bredouillant, celle qui servait à tous ses paroissiens. Au reste, eût-il débité avec l'onction qu'il voulait son discours inédit, qu'il n'eût pas été mieux écouté de cette assistance, cependant religieuse. Ce n'était pas des oreilles qu'elle avait, mais des yeux. Dans le monde militaire, on ne connaissait pas Annie. Plusieurs des parents de la famille Barinck voyaient Sixte pour la première fois, et on les regardait, on les étudiait, on les tournait et les retournait curieusement. Les militaires évaluaient la fortune de la femme, les parents, le présent et l'avenir du mari. Ils n'auront pas moins de 150 000 francs de rente. Est-ce possible? Alors, ils auront hôtel à Paris? En tout cas, ils donneront à danser à Bayonne. On ne variait pas moins dans les appréciations physiques. Certainement, elle louchait. Il ne serait pas étonnant qu'elle devînt poitrinaire. À coup sûr, elle se teignait les cheveux. On ne pouvait pas dire que sa toilette fût riche, mais elle était d'un goût parisien tout à fait scandaleux. Et Sixte, qui jusque-là avait passé pour le plus bel officier de Bayonne, avait-il l'air assez humilié? Dame, un vendu! La sacristie étant trop petite pour le défilé, il avait été convenu que tout le monde passerait par le château et qu'il n'y aurait pas 2 catégories d'invités, les uns qui devaient lyncher et d'autres qui devaient se contenter de la vue du cortège. Barinck avait mis sa gloire de propriétaire dans ce lynche dont le menu se composait exclusivement de ses produits. Saumon pris dans sa pêcherie, jambon de sa porcherie, dinde de sa basse-cour, chaufroid de faisan et de perdreau tué sur ses terres, fleurs et fruits de son jardin et de ses serres. On lui fit meilleur accueil qu'aux mariés, et il y eut unanimité pour le déclarer excellent, pas très distingué, mais d'une qualité supérieure, ce qui, d'ailleurs, est facile pour les gens qui ne comptent pas. Annie, au bras de son mari, allait de table en table, son voile ôté maintenant, adressant à chacun quelques mots aimables ou un sourire. L'élément militaire s'était massé dans une partie de la tente qu'il occupait en maître. Là, il se passa le contraire de ce qui s'était produit dans le clan de la famille, où l'on avait été froid pour Sixte. Ce fut pour Annie que l'on fut réservé, et si nettement au moins chez les femmes, que Sixte crut devoir plaider les circonstances atténuantes en leur faveur. « Si vous saviez, » dit-il à voix basse, « à quel paroxysme d'envie arrivent les femmes pauvres de notre monde,
en peine de fille à marier.
Oh, je m'en doute.
Vous doutez-vous aussi que mademoiselle Laurence Araca, l'aînée des filles de mon général, est la seule qui ait un chapeau de Lebel et une robe parisienne? Les quatre autres n'ont que des copies exécutées par elle à la maison.
Ça se voit, mais je ne trouve pas que ce soit une raison pour me déshabiller et m'habiller comme ça.
Est-ce que je ne les ai pas connus, ces artifices des filles pauvres? Et je n'avais pas des modèles de Lebel?
De table en table, ils arrivèrent à celle où le baron d'Arjusanc s'était assis avec des jeunes gens du pays. Comme il s'était rendu directement à l'église, il ne s'était pas encore vu. Il y eut un moment d'embarras que d'Arjusanc parut vouloir abréger en complimentant Annie et en serrant la main de Sixte. Ce fut pour tous les deux un soulagement qu'ils se gardèrent bien de montrer.
« Saviez-vous que monsieur d'Arjusanc fut de retour ?» demanda Annie.
« Non,
ni moi. »
Une heure après, comme on se promenait dans le jardin, Annie, qui venait de reconduire une de ses parentes, se trouva face à face avec d'Arjusanc, qui vint au-devant d'elle. Il affectait le calme et l'indifférence, cependant il était facile de lire l'émotion sous son sourire. Il la salua en lui disant « Je vous aimais tant que votre refus n'a pas tué mon amour. Je n'aimerai jamais que vous. »
Avant qu'elle fût revenue de son trouble, il s'était éloigné.
Fin de la deuxième partie.